galère. Bonjour, c'est les infos du lundi matin avec du retard. Un quart d'heure de retard, mais bon, on va faire avec. Hein. Donc, on va attaquer par quelques infos internationales. D'abord, une météo qui est toujours très perturbée hein, et qui montre qu'il y a un réchauffement climatique, certainement, hein, qui amplifie tous les phénomènes. Alors, il y a de quoi dire sur ce qui se passe en Australie. Il y a le Japon qui est par contre dans un froid extrême comme jamais, hein, avec du moins 20, moins 10 au plus chaud. Et puis bon, ici, on a un climat toujours tempéré, hein, on a de la chance, mais quand même, une tempête qui est passée sur la Manche et qui a donné des vents et des précipitations importantes, hein, et qui va continuer d'en donner. Elle a même un nom, elle s'appelle Isaias, hein, donc voilà, elle provoque l'arrêt d'un certain nombre de trains, et même, bon, en tout cas pas l'augmentation des bus, et même plutôt un ralentissement. Et une invitation à la prudence dans toutes les zones de l'est de la France. Voilà, alors c'est des choses à suivre, hein, ces modifications climatiques qui sont catastrophiques à certains endroits de la planète, qui à d'autres, bon, n'ont pas la même intensité. Et puis, comme ça tombe sur des pays plus riches, ils ont plus les moyens de se défendre. Mais quand même, quand on voit les États-Unis, il y a assez fréquemment des morts, hein, de par les phénomènes climatiques d'ampleur. Voilà. Alors, sur l'actualité internationale, que dire ? On va commencer par des petites nouvelles. Au Québec, ils ont décidé comme ça, ou ils veulent mettre 18 000 dossiers d'immigration à la poubelle, sans examen. Alors quand même, ils ont annoncé qu'ils allaient rembourser les frais de dossiers qui ont été exposés par les demandeurs. Mais pour certains d'entre eux, ils sont déjà au Canada, ils attendent une réponse à leur dossier. En attendant, ils sont étudiants ou autre chose. Et c'est quand même un peu catastrophique. Donc le Canada, qui jusque-là était particulièrement accueillant, parce que particulièrement peu peuplé et ayant des gros besoins, maintenant, se met au goût du jour. Hein. Donc, ils annoncent, c'est la fin du premier arrivé, premier servi. C'est le service, c'est la carte. Hein. Le droit d'être là, quoi. Et ils veulent tenir compte du marché du travail et des besoins du marché du travail. Ça a provoqué un tollé quand même, parce que jeter 18 000 dossiers en instance, ça se fait pas. Donc peut-être qu'ils vont revenir là-dessus, mais pour l'avenir, les portes seront un peu moins ouvertes. Du côté du Venezuela, situation toujours extrêmement tendue, hein, avec Guaido qui se targue d'appuyer ce qui est présenté comme de l'aide humanitaire pour les habitants du Venezuela, mais qui vient des États-Unis et qui est très mis en avant par la presse pour faire passer donc le pouvoir de Maduro comme le gros méchant qui empêche l'aide alimentaire d'arriver. Alors il y a du vrai. Mais il y a aussi une manière de mettre le feu puis ensuite de prétendre jouer les pompiers qui est assez dégueulasse et dénoncée par Maduro. Et toujours pas d'avenir, hein, dans les prochaines élections, dans de prochaines élections à envisager au Venezuela, puisque les uns veulent une élection présidentielle pour... que Guaido arrive au pouvoir et les autres veulent une élection législative pour faire la part des choses dans le pays entre, grosso modo, la gauche et la droite. Hein. Voilà, pour simplifier. Et pour l'instant, les voix de la raison, notamment portées par des personnes au Mexique, hein, ben, n'aboutissent pas à grand-chose. Dans l'actualité internationale, bon, j'ai pas pris énormément de choses, mais j'ai relevé des propos sur l'assurance maladie de la part de, ou en tout cas la couverture santé, hein, d'un très riche, hein, qui est allé au sommet de l'Union africaine. Bill Gates, donc, pour expliquer que assurer un minimum de santé et résoudre le plus gros des problèmes de santé, c'était à la portée de beaucoup de pays et que c'était un choix politique qu'il fallait faire. Et en exemple, donc, le Rwanda qui n'est pas un grand pays, mais il a déjà banni les sacs plastiques, hein, vous vous rappelez ? Quand même, beaucoup, bien avant les autres, bien avant nous, hein, y a plus de sacs plastiques au Rwanda, après les dégâts que ça a pu causer, tout ce plastique partout. Et ben là-bas aussi, au Rwanda, il y a une couverture santé universelle. Bon, c'est pas si mal, hein, pour un pays qui s'est sorti, y a d'ailleurs bientôt le triste anniversaire du génocide au Rwanda, hein, qui s'est sorti d'une guerre et d'un énorme massacre. Voilà. Donc, il arrive à mettre sur pied des petites choses.
Bonjour.
Salut. Bon, ben, est-ce que tu as de l'international, toi ?
Après le Venezuela et la sortie de Bill Gates sur le Rwanda, peut-être revenir sur ce week-end avec l'annonce officielle d'Abdelaziz Bouteflika, qui a annoncé dimanche qu'il serait candidat à un cinquième mandat lors de la présidentielle du 18 avril, malgré ses problèmes de santé. Bon, on vous fait grâce de son communiqué de ses commentaires sur sa condition physique. Sinon, en 2015, les attentats en Tunisie, les personnes ont été condamnées. Il y a eu 7 condamnations à perpétuité, 27 acquittements et des peines allant de 6 mois à 16 mois de prison. Le jugement concernait 51 inculpés accusés dans les attentats du musée du Bardo. C'était le 18 mars 2015, 21 touristes et un agent de sécurité tunisien avaient été tués. Et dans un hôtel de Sousse, le 26 juin 2015, 38 touristes tués, dont 30 britanniques. Voilà, le verdict est tombé, c'était dans la nuit de vendredi à samedi.
Et oui, le musée Bardo, c'était juste avant le deuxième forum mondial, on les appelle comment déjà ? Forum social.
Ah, les forums sociaux. Oui.
Voilà, le deuxième forum social mondial en Tunisie, hein, qui s'était quand même tenu peu après l'attentat.
Puis après, je ne sais pas si tu as prévu de parler de la manifestation en Espagne de dimanche.
Vas-y.
C'était craignant que le gouvernement de Pedro Sanchez ne négocie l'approbation de son budget avec les indépendantistes catalans contre un nouveau référendum, les partis de droite et d'extrême droite qui refusent le principe même d'une médiation manifestaient dans les rues ce dimanche. Bon, c'était pas très c'est pas très 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 beau, mais en parlant d'extrême droite dans les rues, d'ailleurs il y avait les gilets jaunes ce week-end.
Oui,
sur l'international, oui, bien sûr.
En Allemagne, le SPD qui est censé c'est les démocrates, hein, c'est censé représenter vaguement la gauche, mais bon, la gauche un peu plus à droite que le PS, quoi, hein, en général. Et là, il vient de présenter un programme plus de gauche, justement, hein, qui consisterait à annuler toutes les réformes libérales auxquelles il a pourtant participé, parce qu'il était quand même allié avec la CDU au pouvoir. Un allongement de la durée du chômage, une remontée du montant des allocations de chômage, remontée de la retraite. Surtout, pour un pays qui n'avait pas de SMIC pendant très longtemps, le SMIC est monté relativement vite. Il était à 9 euros et le SPD propose de le passer à 12 euros de l'heure. On en est loin, nous. Hein. Et bon, il fait ça pour essayer de retrouver un électorat, parce que dans les prochaines élections régionales, mais où il y a au moins 4 Länder hein, qui vont voter en Allemagne, eh ben, il y a la CDU, la droite, donc avec quand même encore Angela Merkel en tête, avec 30%, ce qui est très faible par rapport à ce qu'elle avait avant. Et manifestement, elle paye... elle paye le sentiment nationaliste et xénophobe des Allemands, hein, puisque c'est ce qui lui reprochait le plus, c'est l'accueil de 1 million de demandeurs d'asile, ou de plus d'un million de demandeurs d'asile, au moment où il fallait les accueillir précisément en Allemagne. Et donc, entre les conservateurs crédités de 30% et le SPD qui est tombé complètement à 17%, eh ben, y a l'extrême droite, hein, l'AFD, qui correspond à l'extrême droite, bon, xénophobe, et qui serait le deuxième parti. C'est un triste paysage politique en Allemagne.
Oui, en Italie, il y avait une manifestation massive à Rome. Ils étaient quelques 200 000 Italiens à avoir défilé, c'était samedi, pour dénoncer la politique d'investissement et la réforme des retraités engagée par le gouvernement de coalition. Les trois principales confédérations syndicales italiennes ont mobilisé donc environ 200 000 personnes. C'était à Rome essentiellement. Cette mobilisation syndicale est la plus forte enregistrée depuis les manifestations de fin 2014, début 2015, contre la réforme du travail orchestrée par les gouvernements de Matteo Renzi, centre-gauche, pour leurs adhérents et sympathisants. Pour aider leurs adhérents et sympathisants, à converger vers la capitale, les trois syndicats, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est le CGIL, CISL et UIL, avaient affrété 12 trains, 1300 bus, des ferries. Derrière la banderole, on pouvait lire « Un avenir au travail ». Les manifestants réclamaient un plan massif d'investissement public et privé et des réformes plus ambitieuses que celles avancées par le gouvernement d'Union de la Ligue, donc l'extrême droite, et le mouvement des 5 étoiles, le M5S. Parti anti-système.
Ben, moi, j'ai plus trop d'international, mais je... En parlant d'Italie, je me demande ce qui est... Tu sais qu'il y a eu une rupture des relations diplomatiques, là, entre la France et l'Italie. On n'a rien compris, d'un coup, entre deux pays européens.
Oui, le rapatriement de l'ambassadeur ou du consul.
Voilà, ouais. Le rapatriement de l'ambassade de France en Italie, parce que le ton est monté entre l'Italie et la France. Mais j'ai même oublié le sujet, je le savais, mais j'ai oublié. Mais ça m'a paru complètement loufoque. L'Italie est certes un peu d'extrême droite, mais là, c'était pas le sujet, quoi. C'est bizarre.
Et en Syrie, tu as parlé de l'assaut à Baghouz. Alors c'est une alliance arabo-kurde soutenue par Washington en Syrie qui a annoncé samedi avoir lancé sa bataille finale pour éliminer les derniers djihadistes du groupe État islamique dans le pays. C'était un envoyé spécial de France Info à Baghouz qui en a fait le compte-rendu. Dans la grande plaine qui sert de porte de sortie pour les civils encore retenus dans le village de Baghouz, les premières bombes ont été lâchées dans la matinée de samedi par des avions. Qui ont accentué ensuite la cadence. La coalition a concentré ses forces sur le dernier réduit de cet État islamique. Les derniers combattants se sont repliés dans le village, coincé entre la frontière irakienne et le fleuve Euphrate. Ils seraient autour de 500, d'après les forces démocratiques syriennes, et au milieu, 1000 à 2000 civils, des membres de famille qui n'ont pas pu quitter l'enclave. D'après les soldats arabes sur la ligne de front, l'État islamique tient un périmètre de 3 km dans la ville et sur une hauteur de 3 km aussi. Le groupe ne serait plus réellement en état de combattre. L'aviation préparait le terrain pour les avancées au sol des forces contre l'État islamique. Cette dernière bataille marquerait la fin du califat. Et d'après les civils qui fuient, il y aurait beaucoup d'étrangers parmi les djihadistes dos au mur et qui sont retranchés dans ce dernier bastion. Donc, je ne sais pas ce qu'on entend quand on parle d'assaut final dans cette guerre qui dure depuis longtemps. Mais t'as pensé qu'on va continuer encore à parler de la Syrie et c'est, malheureusement, le pays n'est pas encore sorti de cette guerre qui dure et qui dure.
Oui. Voilà.
Et pour l'international, je crois que...
On a à peu près fait le tour. Bon, on se passe une petite musique là parce que on a attaqué un peu carré là. On va écouter Les Mains d'Or, Bernard Lavilliers.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé. Wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit, de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Rocher rouge saigné sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre battus par les vagues. Rongé par la mer, tombé sur le flanc, giflé des marées, vaincu par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi, y'a plus rien à faire. Quand je fais plus rien moi, je coûte moins cher que quand je travaillais moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là. Je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi, y'a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or.
Et voilà, c'était Bernard Lavilliers, Les Mains d'Or. Avant de repartir sur des infos un peu plus nationales, on s'est rendu compte qu'on avait oublié de vous parler des États-Unis et des échecs des négociations. Visant à éviter un nouveau shutdown. Alors, les négociations entre les parlementaires républicains et démocrates, qui avaient pour but d'éviter une nouvelle fermeture de l'administration fédérale américaine, sont dans l'impasse en raison de désaccords sur la politique de détention des migrants à la frontière avec le Mexique. C'est ce qu'a annoncé un sénateur dimanche, un sénateur républicain. Les discussions sont à l'arrêt. C'est ce que disait Richard Shelby sur la Fox News. Pour l'instant, aucune autre négociation n'est programmée. Interrogé dans le même temps dans l'émission Meet the Press dans la chaîne NBC, le chef de cabinet par intérim de la Maison Blanche, Mick Mulvaney, a déclaré qu'à défaut d'accord sur la sécurité à la frontière, un nouveau shutdown n'était pas du tout à exclure. Pour rappel, le président Donald Trump a imposé une fermeture partielle de l'administration fédérale pendant 35 jours en refusant de signer une loi de finances qui n'inclurait pas 5,7 milliards de dollars pour la construction de son fameux mur qu'il veut faire construire à la fenêtre, à la frontière avec le Mexique. Il a finalement accepté le 26 janvier de signer une loi garantissant le financement de l'administration pendant 3 semaines, soit jusqu'au 15 février, en exigeant du Congrès qu'il s'entende d'ici là sur un moyen d'améliorer la sécurité à la frontière. Donc les négociations entre parlementaires butent sur le refus des démocrates, désormais majoritaires à la Chambre des représentants, de financer autant de lits que le veulent les républicains dans les centres de détention pour migrants des services de l'immigration and customs enforcement. Voilà.
Ok. Donc, ben, on va faire du mezzo mezzo avec le contrat du siècle, nous dit-on. 12 sous-marins que la France va construire pour l'Australie. Alors, elle va les construire en Australie, en fait, hein, puisque elle va aussi construire, enfin, c'est pas la France, c'est une société devenue privée, hein, des CNS, c'est... Bon, il y a quand même des parts de l'État dedans, ça touche à la défense, mais bon. Et donc, ils vont d'abord construire un chantier naval à Adélaïde, et puis le premier sous-marin... pas de souci, hein, les sous-marins c'est toujours militaire. Hein. Y a pas, oui, il peut y avoir de la recherche, tu vois, enfin un petit peu, ouais. Mais enfin, bon, il y a de fortes chances que ça soit militaire. Et il devrait être livré en 2030. Ça va représenter 2000 emplois en Australie et 500 emplois en France. Donc 2000 emplois surtout à Adélaïde en Australie. Hein. Et l'objectif, c'est de rénover cette flotte de sous-marins australiennes qui est ancienne pour tenir la dragée haute dans le coin, dans la mer de Chine en particulier, avec face à la Chine, la suprématie sur les petites îles, et puis tu vois, peut-être les fonds marins aussi, des fois qu'on puisse encore faire des trous, trouver du pétrole, tu vois. C'est pas pour protéger la grande barrière de corail. Hein. Voilà, donc la France, vive les ventes d'armes, ça, ça participe à relever son coefficient de croissance, tu vois. Voilà, pas très fière de ça. Hein. Alors sinon, c'était, je sais plus quel acte, l'acte 13 des Gilets
l'acte
jaunes.
L'acte 13, oui.
Ce week-end, avec encore, selon la police, 52 000 quelque chose, et selon les Gilets jaunes, 118 822 ou un truc comme ça. J'ai pas écrit le chiffre, mais voilà. Donc, classique, hein, des chiffres qui sont à peu près le double de ceux de la police pour les manifestants et une mobilisation qui faiblit pas beaucoup, hein, en fait, de week-end en week-end, qui malgré
tout, perdure, ouais.
Voilà, malgré tous les appels au calme et les déconsidérations qu'il peut y avoir. Alors, il y a eu des incidents, on parle surtout de ça, hein, dans les nouvelles d'aujourd'hui, avec d'abord encore une main arrachée. C'est un photographe, hein, qui en plus ne pourra plus travailler, qui... Et comme ça a été filmé, ça a eu plus d'écho que les 4 précédents, je crois, puisqu'il a apparemment perdu 4 doigts devant l'Assemblée nationale. La police, enfin, ou les gendarmes, ou je ne sais plus qui étaient là, ayant fait usage de grenades de désencerclement, les mêmes qui ont tué Rémi Fraisse, hein. Et le gouvernement, droit dans ses bottes, hein, bon, oui, une enquête va être ouverte, mais C'est vrai que la police était un peu contre les grilles de l'Assemblée nationale, un peu coincée, et donc ils estiment légitime l'usage de ce type d'armes de guerre qui blesse un homme qui a juste voulu repousser la grenade, qui sinon allait exploser à ses pieds, quoi. Voilà. Alors, il y a eu aussi des affrontements un peu partout, des voitures de luxe surtout brûlées, mais aussi un véhicule militaire de la mission Sentinelle censé être antiterroriste, et puis des vitrines, et divers véhicules incendiés le long du passage, plus que la dernière fois, semble-t-il. Ça, c'était à Paris. Ouais. Alors, à Lyon, je ne sais pas ailleurs s'il y a eu beaucoup d'affrontements, je n'ai pas trop vu. Hein, face à face tendu, on nous dit parfois, mais pas trop. À Lyon, par contre, c'était carrément une bataille rangée entre l'extrême droite et l'extrême gauche, tous portant des gilets jaunes. Bon, c'est vrai qu'à Lyon, il y a un bastion, dirons-nous, fort de l'extrême droite et aussi des antifascistes qui sont assez habitués à en découdre avec l'extrême droite, un peu sur le même mode, parfois de gros biscotto d'ailleurs. Et du coup, c'est ça, un peu ça que ça a donné dans la rue, hein, avec les images vues d'en haut, ça donne... on entend vociférer, et puis il y a des escarmouches, on ne voit pas que grand-chose se passe. Quand on est en bas, ça fait peur, apparemment, hein, quand on voit d'autres films de ce passage. Ça pose de toute façon la question de qui va dans ces manifestations, parce que là, on a encore eu des gens du RN, hein, qui défendent les gilets jaunes, la France qui se bat, etc. Donc ils essayent toujours de récupérer ce mouvement ou d'en récupérer une partie et d'instiller dedans des idées de droite. Alors il y a une organisation des gilets jaunes un peu qui arrive à commencer à se mettre en place, hein, avec le rassemblement de Commercy qui a dû être suivi par ou qui sera suivi par d'autres. Je crois du côté de la Bretagne, mais c'est compliqué vu la méfiance contre tout ce qui existait avant et vu le fait que les gens sont peu informés et peut-être facilement manipulables, quoi, hein, selon les lieux. En tout cas, ça, c'est un mouvement qui continue. Toujours dans le national, on assiste à une augmentation des agressions homophobes, presque le double de l'année dernière. Et là, donc, ce sont des trois jeunes de 23 à 30 ans qui ont été roués de coups par cinq personnes au sortir d'un bar gay. Je crois que c'est vers Toulouse. J'ai pas noté le lieu. Des chiffres qui montrent... avec Internet, hein, aussi des agressions, du harcèlement, hein, par Internet sur d'autres personnes, qui montrent que les idées réactionnaires continuent de se propager, et en particulier les idées homophobes.
Et retour sur samedi aussi, sur l'acte 13, il y a trois photographes qui couvraient la manifestation des Gilets jaunes de Toulouse qui affirment avoir été visés intentionnellement par les forces de l'ordre. Alors, ils ont montré leurs blessures, hein, pour dénoncer ces attaques délibérées. C'est ce qu'ils écrivent en tout cas sur leur compte Facebook personnel. Le photographe Valentin Belleville, c'est son nom, âgé de 26 ans, était présent dans la manifestation aux côtés d'Ulrich Leboeuf, un autre photographe de Libération, et d'Éric Lebray, un autre photographe. Et selon eux, tous trois étaient visibles et identifiables quand une grenade a explosé au pied de Valentin Belleville en le blessant à l'arrière-cuisse et au fessier. La tension elle était montée samedi sur la place du Capitole, et entre des manifestants qui lançaient des projectiles et des policiers qui répliquaient à tirs de gaz lacrymogène. Les photographes expliquent avoir fait le choix de s'extraire des manifestants pour ne pas se trouver entre les forces de l'ordre et eux. C'est ce qu'ils expliquent à l'AFP. Il ajoutait que tous trois étaient accroupis et portaient des casques siglés presse, des brassards de presse et du matériel de vue. Donc, Éric Lebret, lui, le troisième photographe, s'est dit conscient du risque pris en couvrant des manifestations, mais en même temps, c'est la responsabilité. En fait, il faut bien que quelqu'un les couvre et qu'on en parle, même si on en pense ce qu'on veut, hein, de Libé et de la presse, la presse nationale. Mais bon, la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Garonne a indiqué qu'il n'y avait pas d'éléments pour dire si oui ou non une grenade de désencerclement avait été utilisée. Donc c'est encore le jeu du chat et de la souris. Hein. Mais que l'IGPN serait saisi et les photographes vont porter plainte. Donc voilà, c'est un peu, la blague, la running joke, comme on dit. On ne sait jamais, à chaque fois qu'il y a des mutilés, finalement, soit c'est de la légitime défense, soit c'est pas sûr que ce soit une grenade de désencerclement. Et bon, là, c'est dans le cadre de manifestations, mais ça va au-delà de ça. Les violences policières, ça ne touche pas que des gens dans le cadre de manifestations. Et je ne sais pas si vous êtes des habitués ou des lecteurs ou des lectrices de Bastamag, mais Bastamag fait un travail de recensement des crimes policiers depuis plusieurs années. Et le décompte pour 2018 est tombé. Ce sont 26 personnes qui sont décédées à la suite d'une intervention des forces de l'ordre en 2018. Ce recensement a été actualisé au contact des forces de l'ordre. Donc, 26 personnes seraient décédées des suites d'une intervention policière. Parmi elles, 7 étaient armées. Les forces de l'ordre étaient en situation de riposte dans 3 cas, face notamment aux auteurs d'attaques terroristes à Trèbes et sur le marché de Noël de Strasbourg. Et les 19 autres personnes tuées, donc, n'étaient pas armées. Depuis 2014, on a une moyenne annuelle de 27 personnes décédées au contact des forces de l'ordre. C'est beaucoup plus que dans les années 2000, durant lesquelles les interventions policières étaient mortelles dans 10 à 15 affaires par an. Donc ça a quasiment doublé. Ce pic est notamment dû au nombre de meurtres perpétrés par les policiers en dehors de leur service, mais aussi avec leurs armes contre leurs proches, compagnes, parents et parfois enfants. Dans le recensement, l'inclusion de ces chiffres est prise selon un décret selon lequel les obligations des fonctionnaires de police ne disparaissent pas après l'accomplissement de leurs heures normales de service. Et on considère que les crimes perpétrés à domicile sont également reconnus comme des crimes policiers. Mais ça fait quand même assez froid dans le dos. Donc si vous voulez suivre ces enquêtes, si ces chiffres vous intéressent, encore une fois, je vous invite à vous rendre sur le site de Bastamag. Et y a plein de... Enfin voilà, désarmons-les, quoi. Y a plein de sites qui recensent les violences faites en manif, hors manif, et qui relaient vers des associations de soutien si toutefois vous avez été confronté à des violences commises par les... dépositaire de l'autorité publique.
Voilà. Alors, j'ai pas noté le nom du village ou de la petite ville, mais le RN était en meeting avec Marine Le Pen dans une salle municipale, apparemment. Hein. Et il y a eu 200 manifestants contre, et on ne sait pas combien ils étaient dedans, mais on a l'impression que c'était plutôt moins. Mais surtout, avant, il y a eu un bombage sur la salle municipale, sur le mur de la salle municipale. Alors, avec un message effectivement un peu lourdingue, RN, une balle dans le front, avec un jeu de mots sûrement sur le front. Et du coup, on ne sait pas d'ailleurs qui, d'où vient ce bombage. Mais bon, des bombages, on en a quand même vu beaucoup partout. Et elle porte plainte pour menace de mort et le maire de la commune également. Donc bon, on laisse rien passer de ce côté-là. Peut-être que le fait qu'il y ait eu des manifestants, y compris dans une petite ville, et qu'ils étaient nombreux contre elle, ça l'a un peu énervée. Et ça fait plaisir du côté de notre côté que on continue à ne pas oublier de la considérer comme ce qu'elle est, hein, issue de son parti d'extrême droite, et que c'est pas en s'appelant RN que ça change grand chose. Alors il y a des endroits où les gilets jaunes, donc je crois que c'est à Rennes, ont été rejoints par des enseignants et des lycéens qui manifestaient contre la réforme du bac. Alors, elle est déjà passée, hein, mais elle rentre petit à petit, ou elle va rentrer en application, c'est l'année prochaine. Et c'est pour rappeler, donc, alors c'était les stylos rouges, hein, ça s'appelait les stylos rouges avec les gilets jaunes, ça c'est pour faire joli. Avec une grosse partie en contrôle continu, ce qui va aboutir à baisser le coût du bac, hein, ça c'est sans doute l'objectif, mais à faire que les bacs ne soient pas les mêmes partout, parce que selon l'établissement d'où l'on vient, le bac aura une valeur différente. Il y a ensuite l'abandon des filières que l'on connaît et qui sera remplacé par la nécessité à partir de la première de faire le choix de trois spécialités. Ce choix de trois spécialités sera déterminant pour ensuite Parcoursup, donc, parce que vu que les bacs aussi n'ont pas la même valeur, il y a intérêt de choisir le bon selon là où on veut aller après, hein, ou être pris dans cette grosse affaire de Parcoursup où les gens s'inscrivent sans savoir avant, quelquefois à quelques jours de la rentrée, s'ils sont pris ou pas. Et en gros, c'est un système qui privilégie l'individualisme au détriment du collectif, hein. Évidemment que selon les lycées à la campagne, en ville, etc., il n'y aura pas les mêmes choix de spécialité non plus, hein. Et on ne cherche pas à ce qu'il y ait au niveau d'une ville ou d'une académie toutes les spécialités offertes pour que géographiquement il soit possible aux élèves de choisir, quoi. Chaque lycée prend les spécialités qu'il veut, ou presque. Donc, c'est un problème d'inégalité qui risque d'être mis en place par cette réforme du bac. Et puis, ça s'accompagne de suppressions de postes, hein. Donc, 2600 suppressions de postes en seconde et en première pour l'année prochaine, alors que le nombre d'élèves est en augmentation. Et il y a d'ailleurs des luttes pour des classes réouvertes, hein, donc ça, on le voit, dans la Marseillaise, telle classe à Martigues, telle classe à Marseille, dans tel lycée, dans tel collège, où on passe de 23 élèves par classe à 35 élèves par classe, parce qu'on en a supprimé une, des économies, hein, qui sont faites... sans doute parce que on a dédoublé quelques classes quand même au niveau des écoles primaires, hein, mais ça se fait du coup au détriment de la suite et des classes de collège et de lycée. Voilà. Donc un mouvement qui continue à essayer de faire réfléchir la société sur cette question de l'éducation et de la diminution des ressources qui y sont attribuées, avec par contre probablement une augmentation des ressources dirigées vers les formations donc les formations à la fois privées et payantes, hein, contrairement à la formation de base, la formation initiale qui en France est quand même... On essaye qu'elle soit le plus gratuite possible, en tout cas, même si après, dans les facs, ça l'est de moins en moins. Et puis, dans les manifs, comme on a pu voir le 5 février, hein, si, il y avait le rappel des étudiants étrangers qui sont contraints de payer des droits supérieurs aux étudiants français, ce qui est un vrai scandale, qui a été largement dénoncé. Voilà.
Oui, parce que paraît-il que des frais d'universitaires bas nuiraient à la bonne image des universités françaises.
Les gens, il faut qu'ils payent pour, pour être contents. Ben oui, c'est bien connu, c'est normal. D'accord.
Petite info pas réjouissante, mais à Toulouse, témoin de violence conjugale, une jeune femme a diffusé une vidéo qui est devenue un peu virale. C'était samedi. Elle a été tournée dans une cage d'escalier. Donc elle filme la porte de son voisin et on peut entendre des hurlements, des cris entrecoupés de bruits sourds et de coups et d'insultes prononcés par une voix masculine. L'auteur de la vidéo a été réveillé vers 4h du matin par des cris de femmes qui venaient de l'appartement en dessous. Alors, la police, elle prévient, elle tape à la porte. L'homme lui dit j'en ai rien à faire, vous n'avez qu'à appeler la police. Prévenu, la police passe une première fois, mais ne réclame qu'une pièce d'identité. Les cris reprennent dès leur départ. Sophia rappelle la police et on lui explique qu'ils ne parleront pas. La source policière interrogée par cette enquête qui a été menée ensuite par les journalistes de France Info leur dit que il n'y a pas de trace de violence conjugale. On est dans une dispute face à des gens qui parlent fort. Mais le problème, c'est que... La ligne est tenue, elle est ténue entre la violence verbale est aussi une forme de violence. Donc la personne a été contactée suite au caractère viral de cette vidéo. Sophia, l'auteur de la vidéo, dit avoir été contactée par le cabinet de Marlène Schiappa. Qu'elle a ensuite été en contact avec le cabinet du maire de Toulouse, et qu'une brigade a été envoyée au domicile du couple le lendemain, donc hier, et avec une proposition de prise en charge immédiate, mais la victime aurait refusé de porter plainte. Alors, c'est toujours délicat de tirer le vrai du faux entre les déclarations de la police et... Et puis
c'est très banal hein, que les victimes refusent de porter plainte. On le sait. C'est pas pour ça qu'il faut pas y retourner quand elles appellent. Et on sait que c'est un long... Quand on est sous l'emprise de quelqu'un, c'est un long cheminement pour s'en sortir. Et puis les gens peuvent toujours espérer. On espère toujours que ça va s'améliorer. Il y a aussi des bons moments. Enfin bon, on connaît les associations, en tout cas, qui s'occupent des femmes connaissent ça. Puis tu avais un chiffre, donc...
Oui, c'était les effrontés qui ont rendu... Je ne sais pas si tu connais ce groupe sur Facebook. Les effrontés ont rendu hommage, c'était samedi, aux 20 femmes qui ont été tuées en moins de 40 jours depuis le 1er janvier 2019. Ça fait plus qu'une femme tous les deux jours tuée sous les coups d'un homme. Parmi elles, ce sont les chiffres qui font froid dans le dos. 9 ont été abattus par arme à feu, 3 ont été tués à coups de couteau, 3 ont été étranglés, 3 ont été battus à mort, 1 a été brûlée et 1 a été défenestrée. Putain. Stop au carnage. Et formation des professionnels qui accueillent la parole des femmes dans les commissariats, les gendarmeries et des moyens pour les hébergements et les mises à l'abri, c'est ce que réclame le collectif.
Et puis venez au 8 mars, hein, 18h sur le Vieux-Port, et on fera une petite manif. Bon, on va peut-être attaquer tout de suite Mille Babord parce qu'il est tard. Ça commence par une annonce pour Radio Galère, hein, c'est pas ma faute. L'universalisme, une valeur indispensable aux droits des femmes, la révolution sera féministe. C'est l'émission animée par Nadia à 18h ce soir sur Radio Galère. À 19h ce soir aussi à Aix-en-Provence, c'est l'université populaire du Pays d'Aix qui parle de changement climatique et des risques pour le bassin méditerranéen avec Wolfgang Kramer, un climatologue. Et puis enfin à la Casa Consola, un rue Consola, il y a une conférence débat avec Bernard Tabuteau sur les grandes étapes de la construction européenne. Et là, c'est l'université populaire Marseille Métropole.
Et mardi 12 février, à 15h, à l'équitable café au 54 cours Julien, c'est l'atelier d'autodéfense linguistique FLE, organisé par le collectif FLE Sud-Est et le collectif El Mamba.
C'est marrant comme nom. Hein. Mercredi, devant le conseil départemental, un rassemblement, une conférence de presse et une manifestation, le tout à 11h. 52 avenue de Saint-Just, donc pour la liberté de circulation et l'accès aux droits des mineurs étrangers.
Et ensuite, autopromotion, hein, à
13h. Nadia, à fond.
C'est l'émission d'Amnesty International Marseille, un peu de dignité animée par Nadia. À 18h, à Manifestaine, 59 rue Thiers, c'est la permanence anti-répression de la Legal Team et Street Medic.
Et puis au cinéma La Baleine, à 18h30, mercredi, donc projection du film Des lois et des hommes. C'est un film qui évoque un peu l'Europe, hein, et c'est la lutte de pêcheurs irlandais contre les lobbies. Une lutte acharnée qui va quand même donner des choses pour ces pêcheurs. Je ne sais même pas s'ils sont irlandais ou islandais. Hein. Voilà, c'est l'heure. Hein. On va peut-être se mettre juste une dernière chanson.
Une petite musique.
Et puis vous dire au revoir.
Au revoir.
Et l'on s'aimait, et c'était mai, et l'on s'aimait. Et c'était mai 68, mai 68. Et c'était mai, et l'on s'aimait, et c'était mai, et l'on s'aimait. Et c'était mai 68, mai 68. On a lancé des pavés sur la gueule des flics. Des fous, des fous, des fous, des fous, des foulés. Ils ont hurlé de peur, on a pleuré de rire. Rigole, rigole bien, qui rira le dingue. D'abord c'est dans le dictionnaire ce mot-là. Et c'était mai, et l'on s'aimait. C'était mai, et l'on s'aimait. Et c'était mai 68, mai 68. Et c'était mai, et l'on s'aimait. C'était mai, et l'on s'aimait. Et c'était mai 68, mai 68. La zizanie anime nos mines et nos usines. Stoppez, 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 stoppez. Mais stop, poulet. Ça dure, c'est l'aventure qui entre dans nos. Liberté, liberté, libère-toi, libère-moi. C'est la grande déchirure. Ils ont brûlé nos voitures, les voyous. C'est la panique dans la boutique de leur fric. Panto à mal dans le cloaque de leur traque. Provocateur, chiandi, casseur. C'est l'échec de leur clique, c'est le grand choc. Pour l'imagination, qui en veut, qui en veut. Et l'on s'aimait, et c'était mai, et l'on s'aimait. Et c'était mai 68, mai 68. Et c'était mai, et l'on s'aimait, et c'était mai, et l'on s'aimait. Et c'était mai 68, mai 68. Les grèves les plus brèves sont toujours les meilleures.